l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. L'hiver se profile à l'horizon. Quelques jours avant décembre, la Corée du Sud connaît déjà un temps glacial. Afin d'aider les classes précaires à passer cette saison au chaud, la municipalité de Séoul a récemment lancé une campagne pour la promotion de dons de produits contre le froid en collaboration avec le Fonds du bien-être énergétique de Séoul. Cet événement fait partie du projet Dagaon Séoul, mené par chaque hiver par la capitale sud-coréenne dans le but d'apporter plus de chaleur au foyer. Dans ce cadre, Séoul installe une isolation thermique dans les logements des personnes défavorisées et leur fournit des couettes, des habits d'hiver ou encore des chauffe-mains. La campagne de dons, quant à elle, consiste à mettre en place des boîtes au sein des entreprises de manière à inciter les employés à y mettre des gants, des écharpes et des chaussettes épaisses qu'ils n'utilisent plus. Les articles récupérés seront distribués aux classes à bas revenus. Les caisses de donation seront installées jusqu'au 13 décembre prochain dans les firmes qui annoncent leur intention de participer. Le Fonds du bien-être énergétique de Séoul est un fonds privé chargé de transférer les biens et l'argent donné par les citoyens et les sociétés. Depuis 2015, il a collecté 10,5 milliards de won, soit 7,9 millions d'euros, et 330 000 ménages ont bénéficié de l'aide. Les habitants qui veulent prendre part à la donation peuvent faire un virement ou envoyer un SMS correspondant à un don de 2000 won, équivalent à 1,5 euro. Les membres de l'Eco Millage de Séoul, un système de cumul de points à travers les actions de réduction des gaz à effet de serre, peuvent faire donation de leurs points obtenus. L'ex-président de la République, John Doo-hwan, est décédé avant-hier. En relayant cette nouvelle, les médias sud-coréens ont rappelé son coup d'état militaire du 12 décembre 1979 et sa répression sanguinaire du mouvement démocratique de Gwangju l'année suivante. Ils ont également souligné le fait qu'il ne se soit jamais excusé auprès des victimes. Pourtant, lors du briefing sur sa mort, son ex-secrétaire Min Jong-gi a affirmé devant les journalistes qu'il avait déjà présenté ses excuses. Mais est-ce bien vrai? Selon Min, John s'est excusé avant de se rendre au temple Baekdam dans la province de Gangwon en novembre 1988 afin de s'éloigner de la fronde populaire, souhaitant mettre la lumière sur la corruption pendant son mandat. Or, dans son discours, l'ex-dirigeant de la junte militaire a simplement déclaré qu'il se sentait responsable de ce qui s'était produit et qu'il regrettait de ne pas avoir soigné les plaies et d'ajouter qu'il ferait tout pour les familles des victimes en mentionnant l'affaire de Gwangju et non pas le mouvement démocratique. Un propos difficile à considérer comme une excuse. L'année suivante, lors d'une audition parlementaire sur la corruption de son administration et le soulèvement de Gwangju, John Doo-hwan a rendu ses témoignages sur papier. Mais là aussi, il a affirmé qu'il avait sa part de responsabilité juste parce qu'il occupait le poste de président à l'époque et qu'il regrettait de ne pas avoir pris des mesures pour guérir les blessures des citoyens. Ce bien sûr, sans évoquer comment le massacre s'est produit. De plus, ses proches ont expliqué clairement que cette déclaration ne doit pas être interprétée comme s'il reconnaissait avoir ordonné des coups de feu envers les citoyens. Les mémoires de John, publiées en 2017, montrent bien ce qu'il pense de cette tragédie. Dans le livre, il qualifie d'un menteur le défunt prêtre Cho Pius, qui avait témoigné avoir vu une fusillade perpétrée par des hélicoptères militaires contre des civils lors du mouvement du 18 mai. Il a également indiqué que l'arrestation de l'ex-président Kim Dae-jung est à l'origine de cette affaire. Et surtout, il a confirmé qu'aucune responsabilité ne lui était imputable. John avait 41 ans pour faire ses excuses auprès des victimes, mais il a finalement quitté ce monde sans jamais reconnaître ses fautes. Par ailleurs, avec sa mort, il est devenu difficile de récupérer l'amende qui lui avait été infligée suite à l'affaire des pots de vin quand il était président. Le montant total à payer correspondait à l'enveloppe qu'il a touchée. Le montant que John devait encore payer s'élève à 95,6 milliards de won, soit 73 millions d'euros. Le parquet est en train d'examiner les moyens pour récupérer cette somme, notamment en saisissant ses biens dont la propriété est au nom d'une tierce personne. Quelle est la valeur qui donne le plus de sens à votre vie ? Sur cette question, les Sud-Coréens ont donné une réponse un peu différente des habitants des autres pays. Le cabinet américain Pew Research Center a récemment demandé à 19 000 personnes issues de 17 pays développés les facteurs rendant leur vie plus significative. La principale réponse était la famille avec 38%. Viennent ensuite la profession évoquée par 25% et l'abondance matérielle sélectionnée par 19%. Or, les Sud-Coréens étaient les seuls à avoir choisi le plus l'abondance matérielle. La famille s'est classée seulement au troisième rang derrière la santé. 14 pays sur 17 ont mentionné la famille comme le sens le plus important de la vie. La proportion de cette réponse dépasse 50% en Grèce, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les interrogés ayant donné cette réponse ont accordé beaucoup d'importance aux bonnes relations entre les membres de famille, du temps passé avec eux, au plaisir de voir l'accomplissement des enfants et à l'envie de leur laisser un monde meilleur. En effet, la part des Sud-Coréens qui considèrent la richesse comme le facteur le plus essentiel de la vie n'est pas très élevé, avec 19%. Par comparaison, les deuxième et troisième réponses ont enregistré respectivement 17 et 16%. Selon le cabinet américain, un tel résultat s'explique par le fait que 62% des Sud-Coréens ont choisi seulement une réponse, alors que les questions ont autorisé les réponses multiples. Ces sondés ont valorisé la subsistance, le fait de devenir propriétaire, de rembourser leurs dettes et de mettre de côté de l'argent alloué aux loisirs. Par contre, la proportion des Sud-Coréens évoquant les animaux de compagnie ou les voyages comme principale valeur de la vie était nul. Le pays qui a donné le plus de sens à la religion était les États-Unis, à savoir 15% des interrogés. En revanche, la religion a été évoquée par seulement 1% des Sud-Coréens et par aucun des Japonais sondés. À souligner qu'au Royaume-Uni, en Australie, en France et en Nouvelle-Zélande, la nature était un facteur plutôt populaire en se situant au-dessus de la 8e place du classement. Par ailleurs, les réponses ont varié selon l'âge et le sexe. Les jeunes de moins de 30 ans ont prêté plus d'importance aux amis, à l'éducation et à la profession ainsi qu'aux loisirs. Les femmes, quant à elles, avaient tendance à évoquer davantage la famille et la santé dans la plupart des pays. En ce qui concerne l'orientation politique, les personnes progressistes étaient plus nombreuses à valoriser la nature, les amis et les loisirs, alors que les conservateurs croyaient plus à la religion comme valeur primordiale de la vie.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani en ce jeudi 25 novembre. Dans le pays du matin clair, il n'est pas rare de voir des jeunes filles ayant un bigoudi dans les cheveux. Elles utilisent cet outil de coiffure pas seulement chez elles, mais aussi dans des lieux publics comme le métro, les cafés, les restaurants ou encore dans la rue. Le New York Times a récemment publié un article consacré à ce phénomène. Les générations aînées ne voient pas d'un bon œil les jeunes qui semblent ne pas avoir pris soin de leur coiffure et qui vagabondent sans gêne. Par contre, pour les nouvelles générations, les rouleaux de cheveux représentent un signe d'une évolution des idées sur la beauté et le reflet de la fracture générationnelle du pays au-delà de leur côté fonctionnel. Zhang, une étudiante de 23 ans, utilise un bigoudi dans des lieux publics pour maintenir le volume de sa frange jusqu'à ce qu'elle arrive sur le lieu de son rendez-vous. Même si sa mère lui a demandé d'arrêter cette pratique inconvenable, elle s'en fiche. Pour elle, ce qui est important, c'est d'être belle devant ses êtres chers et non pas pour les gens qu'elle croise sur le chemin. Selon le quotidien américain, cette attitude indépendante se propage parmi les jeunes qui ne s'attachent plus aux conventions du passé, respectées rigoureusement par les citoyens. Auparavant, les femmes qui sortaient sans se maquiller ou se coiffer étaient considérées comme nues, et elles devaient se préparer en privé, en particulier à l'abri du regard des hommes. Or, cette époque est terminée et les jeunes femmes d'aujourd'hui prêtent moins attention à l'opinion publique. Lee, une sud-coréenne de 51 ans, qui a une fille d'une vingtaine d'années, a témoigné que durant sa jeunesse, donner beaucoup de volume aux cheveux était à la mode, ce qui aurait également pu paraître bizarre pour les générations de ses parents. D'après Kim, une autre femme de 54 ans, les bigoudis reflètent l'évolution des jeunes femmes qui estiment dorénavant qu'elles doivent se comporter comme elles le souhaitent sans suivre les attentes liées à la beauté et à leur sexe. Porter ces accessoires de coiffure est un phénomène universel en Corée. Les vedettes sont nombreuses à partager sur les réseaux sociaux des photos d'elles portant un bigoudi. Selon Yoon, une étudiante, utiliser un bigoudi est une tendance et les jeunes femmes souhaitent juste pouvoir faire ce qu'elles veulent en paix. L'économie collaborative gagne de plus en plus de terrain en Corée du Sud. Récemment, les salons de coiffure partagés font un carton. Ces commerces mettent en location plusieurs postes de coiffage et le reste de l'espace est utilisé comme un lieu commun. Ouvrir ce type de salon est devenu possible à compter d'août 2020 suite à la mise en place du bac à sable réglementaire, plus connu sous le terme anglais sandbox. Il s'agit d'un système consistant à exempter ou suspendre les réglementations existantes pendant une certaine période lors du lancement d'un nouveau produit ou service. Un salon partagé situé dans le quartier de Gangnam à Séoul est composé d'un endroit commun au milieu destiné à la préparation de la teinture et qui est entouré de 18 postes de coiffure. Dans un coin, il se trouve des bacs de lavage et une salle de traitement capillaire. Les 12 coiffeurs qui y travaillent sont tous des patrons d'une enseigne. Selon le gérant du salon, les coiffeurs partenaires ont pas mal de clients et certains ont même loué un poste supplémentaire ou ont employé un assistant. La naissance des enseignes partagées est liée à l'augmentation du coût de l'ouverture d'un salon, qui prend de plus en plus la forme d'une entreprise. Dans un salon partagé, les coiffeurs peuvent lancer leur propre business avec un budget beaucoup moins important. Selon un responsable, les coiffeurs employés dans un salon ne touchent qu'une petite partie des recettes qu'ils génèrent. Mais ils n'ont pas le choix d'y rester afin de mettre de côté de l'argent pour un jour ouvrir leur propre salon. Dans ce contexte, le salon partagé est une excellente alternative. Les clients de leur côté peuvent bénéficier d'un service sur mesure, d'autant qu'ils peuvent établir un client personnel avec un coiffeur. Selon Park, un Sud-Coréen d'une vingtaine d'années qui fréquente souvent ce genre de nouveaux lieux à la mode, et il est satisfait qu'il puisse se faire coiffer dans un endroit calme et privé. La principale raison est que les coiffeurs reçoivent seulement les clients qui ont pris rendez-vous à l'avance. Face au succès de ce salon, le patron envisage d'ouvrir un nouveau point franchisé l'année prochaine dans la province de Gyeonggi. Les experts soulignent la nécessité de l'allègement des réglementations pour promouvoir le développement d'une nouvelle industrie. D'après eux, l'économie du partage permet de réduire le coût aux entrepreneurs et d'offrir un service de qualité aux consommateurs. Ils conseillent donc de créer un environnement dans lequel de nouvelles formes de business puissent voir le jour, à condition que les formes minimales sur la sécurité, l'hygiène et la concurrence loyale soient respectées. Les manhwapang, les salles de lecture privées de manhwa, les BD coréennes, perdent leur place dans le pays du matin clair. Ces lieux de détente où l'on peut lire tranquillement en grignotant son goûter connaissent une chute des clients à cause de l'essor du webtoon, le manhwa numérique. Selon l'Institut national des statistiques, le nombre de commerces louant des BD a dégringolé à 2500 en 2019 contre 4800 en 2006. Si on exclut les enseignes qui n'offrent pas d'endroit pour la lecture sur place, le chiffre chute à 704. Selon Lee, patron d'un manhwa bank de 71 ans, il se fait livrer tous les jours les nouveautés. Mais les clients sont rares. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le chiffre d'affaires a baissé d'un tiers du niveau habituel. Park, 64 ans, un habitué de cette bibliothèque privée, s'occupe de temps en temps de la caisse à la demande du gérant, en lisant des manhwas. Selon lui, il ne regarde pas les webtoons sur son smartphone parce qu'il ne sait pas comment procéder pour le paiement mobile. Il préfère venir ici parce qu'il peut y rester toute la journée à un coût assez bas. Il se sent comme chez lui dans cet endroit. Néanmoins, il trouve naturel que ce secteur soit en voie de déclin face à la popularité des plateformes en ligne. Joe gère aussi un café de manhwa depuis 15 ans à Séoul. D'après le sexagénaire, la plupart des œuvres sont désormais proposées en format numérique. Et même si celles qui remportent un gros succès sont publiées plus tard en version papier, les gens qui les louent sont peu nombreux. Joe connaît par cœur l'emplacement de chaque livre qui remplit sa petite enseigne pour les recommander aux clients en fonction de leur goût. Un de ses clients, qui est actuellement un employé, a commencé à fréquenter sa bibliothèque depuis qu'il était collégien. Mais aujourd'hui, Joe ne voit plus aucun adolescent entrer dans son commerce. Dans ce contexte, certains imputent le déclin de ses commerces à l'industrie du manoir, concentrée excessivement sur le marché en ligne. En effet, le nombre de BD publiés en bouquin physique est toujours sur une pente descendante ces derniers temps. Il a diminué de 7,9 millions à 5,7 millions d'exemplaires entre 2018 et 2020. À en croire l'Association des éditeurs de Corée, la publication de nouveaux livres a été retardée à cause de l'épidémie virale et aussi de la baisse de la demande pour les manhwa pang fréquentés uniquement par les amateurs.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de Sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Exposition, danse classique et concert cette semaine, si vous aimez les photos, une exposition consacrée à Philip Halsman à Séoul. Comme tous les ans, le ballet Casse-Noisette au centre culturel Sejong, toujours dans la capitale coréenne, une exposition de l'artiste britannique David Shrigley, et enfin, pour clôturer cette édition, un concert de Jang Sang-hik et Ho Jung-hae au centre de culture et d'art d'Ansan. Bon plan de sortie, c'est parti! Une exposition consacrée au photographe américain d'origine lettonne Philip Halsman sera présentée au musée d'art contemporain K à Séoul. Intitulée Jumping Again, cette dernière ouvrira ses portes le 4 décembre 2021 et durera jusqu'au 3 janvier prochain. Philip Halsman, né en 1906 et décédé en 1979, est l'un des plus grands maîtres de la photographie du XXe siècle. Il est notamment connu pour ses 101 couvertures du magazine Life et sa collaboration avec le surréaliste Salvador Dali. Dans les années 1950, il a immortalisé de nombreuses célébrités en train de sauter en l'air. Il croyait en effet aux vertus du saut. Selon lui, quand on saute, le masque tombe et on est moins inhibé, plus détendu, donc plus photogénique. Parmi ses modèles se trouvaient le président américain Richard Nixon, le peintre Marc Chagall ou encore les actrices Marilyn Monroe et Audrey Hepburn. L'exposition présente une sélection de ces clichés pleins de vivacité qui témoignent de la créativité, de l'imagination et de l'humour de l'auteur. Cette année encore, la compagnie de danse Universal Ballet présentera Casse-Noisette, un incontournable des fêtes de fin d'année. Il sera monté sur la scène du Grand Théâtre du Centre culturel Sejong à Séoul du 18 au 30 décembre. Inspiré d'un conte d'Hoffmann, chorégraphié par Marius Petita sur la musique romantique de Piotr Ilitch Tchaïkovski, ce ballet en deux actes a été créé en 1892 au théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Depuis 1986, l'Universel Ballet présente cette œuvre classique tous les ans aux alentours des fêtes de Noël et ce toujours à guichet fermé. L'histoire se déroule chez la petite Clara, où toute la famille est réunie pour le réveillon de Noël. Clara reçoit comme cadeau un casse-noisette en bois. Pendant la nuit, ce dernier combat le roi des souris, se transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume féerique. Le musée d'art contemporain K à Séoul accueille une exposition de l'artiste britannique David Shrigley du 18 décembre 2021 au 17 janvier 2022. David Shrigley, né en 1969, est connu pour ses illustrations inspirées par des événements de la vie quotidienne, faites de traits simples et accompagnées souvent de phrases courtes, humoristiques. En 2020, il a été fait officier de l'ordre de l'Empire britannique pour sa contribution à l'art contemporain. Aujourd'hui, il se sert activement des réseaux sociaux pour faire connaître son travail et atteindre de nouveaux publics. L'exposition permettra au public de découvrir non seulement ses dessins, mais aussi ses installations de l'artiste qui illustre à merveille l'humour noir britannique. Les chanteurs Jang Sa-hik et Ho Jung-hae donneront ensemble un concert le 18 décembre au Centre de culture et d'art d'Ansan dans la province de Gyeonggi. Connu pour sa voix rauque et émouvante, Jang Sa-hyuk a fait ses débuts de chanteur à l'âge de 46 ans, après avoir exercé une dizaine de métiers, d'employé de magasin, de meubles, à marchand ambulant, en passant par garagiste. Il a vite trouvé sa place sur la scène musicale sud-coréenne, avec un style combinant des éléments de la musique traditionnelle coréenne, du jazz et de la musique classique. Lors de ce concert, il sera entouré des musiciens de jazz, des joueurs d'instruments coréens comme le haegeum, ainsi que d'un groupe a cappella appelé The Solist. Oh Jung-hae, dotée d'une voix claire et mélancolique, est une chanteuse spécialisée dans le pansori, le récit chanté traditionnel coréen. Elle est aussi une actrice qui a fait ses débuts dans le film La chanteuse de pansori d'Im Kwon-taek en 1993. Pour ce concert, l'artiste se produira en compagnie du groupe de musique traditionnelle Hanpuri Gamwak Korea. Cette édition de Bon Plan de Sortie est maintenant terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atleni au micro, Ijian à la rédaction, avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.